D'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Faut-il craindre la variole du singe? Un premier cas suspect signalé en France, d'autres déjà avérés ces derniers jours en Europe et en Amérique du Nord. Mais les spécialistes sont pour l'instant plus étonnés que vraiment inquiets. Explication à suivre. Enfin, un nouveau gouvernement. Il sera dévoilé cet après-midi, annonce l'Élysée. Damien Abad en fera-t-il partie? Le patron des députés LR claque la porte de son parti. Sa situation devenait intenable, nous dira le service politique d'Inter. Dans ce journal aussi, des réfugiées ukrainiennes victimes de la législation polonaise très restrictive sur l'IVG. Les quelques producteurs français de graines de moutarde très sollicités face à la pénurie mondiale. Et puis des clubs de foot trompés par une arnaque aux faux enfants malades.
Et à 7h45, ce sera le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, une question: quelle priorité climatique pour le gouvernement d'Elisabeth Borne?
France Inter.
Ce n'est pas une maladie qu'on a coutume de voir sous nos latitudes.
Mais son nom vous était d'ailleurs sûrement étranger jusque-là. D'habitude limité à l'Afrique de l'Ouest, la variole du singe fait donc son apparition ces derniers jours en Europe et en Amérique du Nord. C'est le Royaume-Uni qui a le premier donné l'alerte. Depuis, quelques dizaines de cas sont signalés en Espagne, au Portugal, en Suède ou encore au Canada. Et cette nuit, un premier cas suspect annoncé en France, en région parisienne. Il faut encore attendre le résultat des test pour le confirmer. Fièvre, maux de tête et surtout éruption cutanée comme une varicelle. Les symptômes sont généralement bénins. Reste que cette maladie est théoriquement rarissime dans les pays occidentaux. Cette subite augmentation des cas étonne donc les spécialistes. Hélène Chevalier.
Endémique en Afrique de l'Ouest et centrale, cette infection est dans la plupart des cas transmise à l'homme via des singes ou des rongeurs. Ce qui intrigue les autorités sanitaires et les scientifiques, c'est la multiplication des cas humains en dehors des pays de présence habituelle. Sur l'ensemble des cas repérés aux États-Unis et en Europe, seul le premier patient revenait du Nigeria. India Leclerc est chercheuse à la cellule intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur.
La transmission humaine, elle est très rare, elle est possible, elle n'est pas facile. C'est assez inhabituel. Alors, il y a quand même déjà eu une épidémie en 2003 aux États-Unis. Donc, il y a quand même eu 47 cas confirmés.
Et si les contaminations à la variole du singe se comptent en quelques milliers chaque année, elles ont fortement augmenté depuis 10 ans sur le continent africain. Une hausse liée à la fin de la vaccination massive suite à l'éradication de la variole au début des années 80.
Le vaccin contre le virus de la variole protège les personnes infectées par le monkeypox virus à hauteur de 85% à peu près. Et effectivement, on pense que l'arrêt de la vaccination contre la variole a permis en fait au virus d'émerger, et notamment chez les personnes relativement jeunes qui n'ont jamais reçu le vaccin.
Le séquençage du virus prélevé sur les patients permettra de voir par ailleurs si une mutation peut être à l'origine de ces nombreuses contaminations.
Et en tout cas, la progression de cette variole du singe est déjà suivie de près par les autorités sanitaires. Le Centre européen de contrôle des maladies annonce un premier rapport d'évaluation des risques dès lundi.
Il est 7h33, il était sous pression, contraint de faire un choix.
Damien Abad n'est ce matin plus le patron des députés TLR. Il se met en congé de son parti. Interview dans le Figaro dans laquelle il regrette notamment que certains de ses camarades fassent d'Emmanuel Macron l'adversaire numéro 1. Il faut dire, Anne Souhaitemont, que le parlementaire de l'Ain était sommé de clarifier sa situation, lui qui est pressenti pour entrer au gouvernement.
Encore un divorce politique au passif d'Emmanuel Macron. Soupçonné de vouloir rentrer au gouvernement, Damien Abad a donc finalement claqué la porte des LR. Conséquence immédiate, il aura un candidat de droite face à lui aux législatives. Julien Martinez déposera à 11h son dossier de candidature en préfecture. Une candidature symbolique car il sait qu'il ne l'emportera pas.
C'est une question à la fois de principe et d'honneur. Je crois qu'on a une famille politique qui a encore des choses à dire, qui a des vraies valeurs et un projet à défendre et à proposer aux Français. Et je crois qu'il faut aujourd'hui de la clarté. Il faut de la fidélité, de la loyauté, c'est ce qu'attendent les Français.
Depuis plusieurs jours, Damien Abad avait coupé toute communication avec sa famille politique. Hier, il était même exclu de la boucle WhatsApp des parlementaires. C'était devenu insupportable, attaque un membre du groupe. Quelques heures plus tard, Damien Abad clarifiait enfin sa position dans le Figaro. « Je reste un homme de droite, mais ne me reconnais plus dans la démarche de mon parti. » Sera-t-il appelé au gouvernement? Il s'est démonétisé, risque de tout perdre, tacle vengeur un collègue de l'Assemblée. Imaginant un Damien Abad plus LR, mais pas ministre pour autant.
Gouvernement qui sera donc dévoilé cet après-midi, promet l'Élysée avant un premier conseil des ministres lundi. L'opposition commençait à s'impatienter près d'un mois après la présidentielle. C'était anormal, disait hier soir Marine Le Pen sur BFM, surtout lorsqu'on connaît, je cite, la situation quotidienne des Français en ce moment. Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour EDF, confronté en France à des problèmes de corrosion sur certains réacteurs nucléaires. Le groupe annonce un nouveau retard et un coût encore en hausse pour ses EPR d'Hinkley Point en Angleterre. La facture finale est maintenant estimée à 30 milliards d'euros, 9 de plus qu'en 2016 au début du chantier. Et le site ne produira pas d'électricité avant juin 2027, nouveau délai d'une année supplémentaire. 40 milliards de dollars, c'est une nouvelle enveloppe colossale que le Congrès américain vient d'approuver pour l'Ukraine, d'autant qu'elle s'ajoute à d'autres déjà votées. Elle doit notamment permettre à Kiev de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense antiaérienne. Alors que les combats ne baissent pas en intensité dans le Donbass, 12 morts hier dans des bombardements russes sur Severodonetsk, l'une des dernières poches de résistance dans la région de Luhansk. Depuis maintenant 3 mois, la moitié des 6 millions de réfugiés ukrainiens sont passés par la Pologne. Parmi eux, des femmes victimes de viols en Ukraine et qui ont aujourd'hui toutes les difficultés à accéder à l'avortement dans leur pays d'accueil. La Pologne est l'un des plus restrictifs d'Europe en la matière. Varsovie, Sarah Bakaloglou.
Elles sont près de 400 à avoir contacté le collectif Avortement sans frontières depuis début mars. Des réfugiés arrivés en Pologne qui ont découvert la sévère réalité du droit à l'avortement. Un calvaire supplémentaire pour ces femmes, explique Antonina Lewandowska de la Fondation pour les femmes et le planning familial.
Honnêtement, je ne peux pas imaginer ce que vivent ces femmes qui ont fui la guerre, ont subi un viol, ont perdu peut-être des proches et qui arrivent dans un autre pays dont elles ne parlent pas forcément la langue. Un pays où l'avortement en cas de viol est possible sur le papier, mais en réalité est impossible à obtenir.
Car théoriquement, l'avortement reste légal en Pologne en cas de viol, mais dans les faits, la procédure est très complexe. Justyna Wejcińska fait partie de l'association Abortion Dream Team.
La loi polonaise est très mauvaise, surtout quand il s'agit de viol. Car si vous voulez avorter pour cette raison, vous devez prouver à un procureur que cela est arrivé. Donc aller au commissariat pour le signaler. Donc même les Polonaises ne le font pas car ce processus est vraiment horrible.
Selon les ONG interrogées, aucune femme ukrainienne ayant été violée n'a pu avoir accès à un avortement légal en Pologne. La majorité des femmes les ayant sollicitées ont commandé des pilules abortives en ligne. Varsovie, Sarah Bakaloglou, France Inter.
Et en marge de ce conflit en Ukraine, Américains et Russes se rejettent la responsabilité des pénuries alimentaires à venir dans le monde. C'était hier à l'ONU, Washington appelant Moscou à débloquer les ports de la mer Noire. Mais cette guerre n'est pas la seule cause des tensions actuelles dans l'agroalimentaire. La sécheresse aussi, comme au Canada, où la production de graines de moutarde s'effondre. Or, c'est le premier exportateur mondial. C'est donc en partie pour cela que les rayons de moutarde se vident chez nous, en France. Alors la modeste filière française tente de tirer son épingle du jeu, Agnès Soubiran.
En attendant la prochaine récolte fin juillet début août, Benoît Morisseau, qui cultive des graines de moutarde depuis 7 ans dans le Val-de-Loire, a dû puiser dans ses réserves.
Il y a une demande qui est forte, plus forte, et on est en train de prendre sur le stock tampon que l'on avait créé.
Et à l'avenir, ces 32 hectares de culture ne suffiront sans doute pas à répondre aux besoins d'un fabricant de moutarde qui a vu cette année ses ventes multipliées par 2.
Il est possible de produire plus. Pour l'instant, je produis exclusivement pour Martin Fourret, mais il est fortement possible que je demande à d'autres agriculteurs voisins d'en faire de même s'il y a besoin de produire plus.
Puiser dans les stocks, agrandir les surfaces cultivées et ou améliorer le rendement. C'est d'ailleurs le choix fait en Bourgogne où Thierry Guinet, ingénieur à l'Institut Agro de Dijon, sélectionne les meilleurs plans pour les agriculteurs locaux.
Le but, c'est en fait de créer un grand nombre de nouveaux génotypes, donc de nouveaux individus de moutarde qui ont une bonne résistance au froid, qui ont un bon rendement, qui ont une bonne tolérance aux insectes, qui ont une bonne tolérance aux maladies. Et qui en plus ont une qualité qui correspond à ce que recherchent les industriels.
Les nouveaux plants, eux, seront semés à l'automne, avec l'objectif d'augmenter la production hexagonale pour dépendre un peu moins des importations.
Trois membres d'une même famille retrouvés morts hier soir dans le Finistère, emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue à Plogoff, à quelques kilomètres de la pointe du Raz. Les victimes sont les deux parents ainsi qu'un enfant de 12 ans. Trois autres enfants sont sains et saufs. La météo n'était pas défavorable, même si la houle était forte dans cette zone. Après des mois d'audience au procès des attentats du 13 novembre 2015, c'est le dernier jour des témoignages pour les parties civiles. Lundi commenceront les plaidoiries des avocats. 170 hommes noirs ont prévu de plaider devant la cour d'assises spécialement composée.
Et au rayon des arnaques, il est 7h40, en voici une particulièrement cynique.
Oui, ce sont des clubs de football qui en ont été les victimes. Un père de famille de Toulon leur a envoyé des vidéos de son fils. On y voyait l'enfant expliquer qu'il était gravement malade et réclamer un petit cadeau, des maillots dédicacés par les joueurs. Mais tout était faux, Thibaut Delmarle. On avait en fait affaire à un collectionneur prêt à tout apparemment.
Dans chacune des vidéos, la mise en scène est presque parfaite. Le jeune garçon est assis sur un tabouret, l'air triste, face à son père et s'adresse au staff du club.
Je rentre à l'hôpital jeudi matin pour me faire opérer du cœur samedi. Et je tenais à savoir si vous voudriez bien m'offrir votre maillot de match dédicacé.
Thomas Félix, le chargé de communication du club de Bourg-en-Bresse, se laisse attendrir, envoie un maillot de bon cœur et propose même au garçon d'enregistrer une nouvelle vidéo.
Oui, le père nous a autorisé que son fils soit filmé pour faire passer un message affectueux sur les réseaux.
Alors évidemment, tout le monde salue le beau geste de l'équipe sur les réseaux sociaux, mais très vite, avec cette diffusion massive de la vidéo, une vingtaine de clubs du championnat national et de Ligue 2 se rendent compte qu'ils ont aussi reçu cette même demande du jeune garçon et de son papa. Le scénario varie, il n'est parfois pas question de problèmes cardiaques mais de leucémie. Maxime Malovry du club de Chambly dans l'Oise est tombé dans le panneau.
Premièrement choqué et abasourdi, et puis deuxièmement un peu mal à l'aise parce que on a été pris pour des cons quoi. Nous et tous les autres clubs. J'ai de la peine aussi pour le petit parce que le petit il a rien demandé, je pense qu'il doit avoir quoi, 8-10 ans.
Le papa a supplié les clubs de retirer les publications et a promis de renvoyer tous les maillots au club.
Le récit de Thibaut Delmarle. Et puis en tennis, tirage au sort pas vraiment favorable aux Français à Roland-Garros à deux jours du début du tournoi. Dès le premier tour, Joe Wilfried Tsonga sera opposé au numéro 8 mondial, le Norvégien Casper Ruud. Gilles Simon affrontera lui l'Espagnol Pablo Carreño. Puis on sait déjà qu'il n'y aura pas de finale entre Djokovic et Nadal, car tous les deux sont dans la première moitié de tableau, tout comme d'ailleurs le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz,
là là.
Très attendu
là là.
Sur la terre battue parisienne.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.